Aventure de mon oncle. Il y a quelques années, peu de temps avant la Révolution française, mon oncle avait passé plusieurs mois à Paris. Les Anglais et les Français étaient alors plus unis qu'aujourd'hui et se confondaient cordialement dans la société. Les Anglais voyageaient pour dépenser leur fortune et trouvaient les Français toujours prêts à les y aider. Ils voyagent aujourd'hui pour l'aménager et en viennent à bout sans le secours de personne. Peut-être aussi nos compatriotes voyageurs étaient-ils alors moins nombreux et plus choisis qu'aujourd'hui, où toute la nation se disperse et inonde le continent. En un mot, ils circulaient plus facilement dans la société étrangère, et mon oncle, durant son séjour à Paris, contracta plusieurs liaisons étroites parmi la noblesse française. Peu de temps après, il voyageait en hiver dans cette partie de la Normandie qu'on nomme Pays de Caux, quand, à l'approche du soir, il aperçut les donjons d'un ancien château, au-dessus des arbres du parc, chaque tour avec son toit conique d'ardoise, pareil à une bougie couverte de son été noir. « À qui appartient ce château, mon garçon ?» cria mon oncle à un grand diable de postillon qui, avec ses bottes énormes et son chapeau retroussé, galopait à grand bruit devant lui. « À monseigneur le marquis de M. » dit le postillon, portant la main à son chapeau, par respect, parti pour mon oncle, parti pour le nom illustre qu'il prononçait. Mon oncle reconnut le nom d'un de ses amis de Paris, qui avait souvent exprimé le désir de le recevoir dans son manoir paternel. Mon oncle était un vieux voyageur, un homme qui savait tirer parti des circonstances. Il songea quelques instants à la surprise agréable que causerait au marquis cette visite inattendue, et à l'avantage qu'il trouverait lui-même à prendre tranquillement ses quartiers dans un château, à souper de la cuisine bien connue du châtelain, à goûter de ses vieux vins de Champagne et de Bourgogne, au lieu d'être réduit au misérable logement et à la mauvaise chère d'une auberge de province. Aussi, après quelques minutes, le postillon efflanqué faisait claquer son fouet comme un démon, ou comme un vrai français, dans la longue avenue qui conduisait au vieux castel. Chacun de vous, sans doute, a vu des châteaux français, maintenant que tout le monde voyage en France. Celui-ci était des plus antiques. Il s'élevait nu et solitaire au milieu d'un désert d'allées de sable et de froides terrasses de pierre avec un triste jardin, bien régulier, divisé en angles, en rhomboïdes, et un triste parc sans feuilles, disposé géométriquement en longues allées, et deux ou trois tristes statues sans nez, et des fontaines qui versaient une eau froide à faire claquer les dents. Tel fut du moins l'effet que ce spectacle produisit sur mon oncle dans sa visite d'hiver, quoique, au milieu des chaleurs de l'été, l'aspect de ce séjour dut certainement être plus agréable au regard. Le claquement du fouet du postillon, qui devenait de plus en plus fort à mesure qu'ils approchaient, fit sortir de la volière une troupe de pigeons et du château force domestique avec le marquis lui-même à leur tête. Il fut enchanté de voir mon oncle, car sa maison, comme celle de notre digne hôte, n'avait jamais trop d'habitants. Il le baisa donc sur les deux joues à la mode française et le fit entrer dans le château. Le marquis en fit les honneurs avec l'urbanité de son pays. À dire le vrai, il était fier de son vieux manoir de famille, car une partie en était fort ancienne. Il y avait une tour et une chapelle bâties de temps immémorial, mais le reste était plus moderne. Les donjons avaient été démolis pendant les guerres de la Ligue. Le marquis s'étendait avec plaisir sur cet événement et semblait plein de reconnaissance envers Henri IV pour avoir fait à la demeure de ses pères l'honneur de la renverser. Il avait mille histoires à conter sur les prouesses de ses ancêtres et montrait avec complaisance des chaperons, des armées, des arbalés, d'énormes bottes, des côtes de buffle qu'avaient portées les ligueurs. Par-dessus tout, était une épée à double poignée qu'il pouvait à peine soutenir, mais qu'il regardait à cause de cela comme une preuve qu'il y avait eu des géants dans sa famille. Au reste, c'était un bien petit descendant de ces grands guerriers. Quand les regards se tournaient des larges visages, des membres vigoureux que représentaient leurs portraits, sur le petit marquis, avec ses jambes de fuseau et son visage pâle, flanqué d'une paire d'ailes de pigeons poudrées qui semblaient prêtes à s'envoler avec lui, à peine eut-on pu croire qu'il fut de leur race. Mais en regardant ses yeux qui brillaient comme deux étoiles de chaque côté de son nez crochu, on sentait qu'il avait hérité de toute la fierté de ses aïeux. Le courage d'un Français ne s'éteint jamais, quoique son corps ayant décroissant. Il semble plutôt se raréfier et devenir plus inflammable à mesure que les particules terrestres diminuent. Et j'ai vu, dans un petit nain de cette nation au cœur fier, assez de valeur pour faire la dose d'un géant passable. Quand le marquis se fut coiffé, selon sa coutume, d'un des vieux casques pendus au mur de sa salle, quoique sa tête y fût aussi à l'aise qu'un pois sec l'est dans sa cosse, ses yeux lançaient du fond de cette caverne de fer l'éclat d'une escarboucle. Et quand il mania l'épaisse lame à double poignet, on eût cru voir l'audacieux petit David soulevant l'épée de Goliath qui ressemblait dans ses mains à un lance souple d'un tisserand. C'est trop m'arrêter, messieurs, sur cette description du marquis de son château, mais vous devez m'excuser. C'était un vieil ami de mon oncle, et chaque fois que mon parent contait cette histoire, il se plaisait à parler longtemps de son hôte. Pauvre petit marquis! Il fut du nombre de ces seigneurs intrépides qui firent ce généreux mais inutile effort pour la cause de leur souverain dans la triste journée du 10 août. Il déploya jusqu'au dernier moment la valeur d'un preux chevalier français. Il brandissait faiblement sa courte épée avec un « ça, ça !» en face d'une légion de sans-culottes, mais il fut cloué au mur comme un papillon par la pique d'une poissarde, et son âme héroïque s'éleva au ciel portée sur ses ailes de pigeon. Mais qu'importe tous ces détails à mon histoire, je poursuis. Quand l'heure de se retirer fut venue, on conduisit mon oncle à sa chambre, dans une vieille et respectable tour. C'était la plus ancienne partie du château. Elle avait servi jadis de forteresse, aussi la chambre n'était-elle pas des meilleures. Néanmoins, le marquis la lui avait destinée parce qu'il le connaissait pour un voyageur de bon goût et avide d'antiquité. En outre, parce que les autres appartements étaient déjà occupés. Au reste, il réconcilia fort bien mon oncle avec sa nouvelle demeure, en lui nommant les grands personnages qu'il avait auparavant habités et qui tous étaient, de façon ou d'autre, alliés à sa famille. À en croire le marquis sur sa parole, John Balliol, ou, comme il l'appelait, Jean de Balliol, était mort de chagrin dans cette chambre même à la nouvelle du triomphe de son rival, Robert Bruce, à la bataille de Bannockburn. Et quand il ajouta que le duc de Guise y avait dormi, mon oncle fut tenté de se féliciter de jouir d'un tel honneur. La nuit était froide et venteuse, et la chambre n'était pas des plus chaudes. Un vieux domestique à longue mine, au corps effilé et couvert d'une brillante livrée, suivit mon oncle, apporta une brassée de bois devant la cheminée, jeta un coup d'œil étrange sur la chambre et lui souhaita un bonsoir avec une grimace et un mouvement d'épaule qui eussent excité les soupçons de la part de tout autre qu'un vieux domestique français. La chambre avait en effet un air assez triste pour frapper de pensées lugubres tout homme qui avait lu des romans. Les fenêtres hautes et étroites avaient jadis servi de meurtrières, mais elles avaient été grossièrement élargies autant que l'avait permis l'extrême épaisseur des murs. La boiserie mal jointe criait à chaque coup de vent. On eût pu croire, dans une nuit venteuse, que quelques vieux ligueurs parcouraient l'appartement avec leurs grosses bottes et leurs éperons de fer. Une porte qui était entr'ouverte et qui, comme une vraie porte française, serait restée entr'ouverte en dépit de toute impulsion et de tout effort, donnait sur un long corridor noir qui conduisait Dieu sait où et semblait destiné à servir de promenade aux fantômes quand ils sortaient à minuit de leur tombeau. Le vent soufflait dans ce passage avec fracas, et faisait mouvoir et craquer la porte comme si quelque spectre incertain hésitait s'il devait entrer ou non. En un mot, c'était précisément ce genre d'appartement lugubre qu'un fantôme, s'il en existait dans le château, pouvait choisir pour ses promenades nocturnes. Toutefois, mon oncle, tout accoutumé qu'il était à d'étranges aventures, n'en redoutait alors aucune. Il fit quelques efforts pour fermer la porte, mais sans succès. Non qu'il sentît quelques craintes, car il avait trop voyagé pour être effrayé par un appartement de mauvaise mine, mais la nuit, comme je l'ai dit, était froide et orageuse, et le vent mugissait près de la vieille tour avec la même violence qu'en ce moment autour de cette vieille maison. L'air sortait du long corridor sombre, aussi froid et aussi humide que le fond d'un cachot. Ainsi, l'hôte du marquis, ne pouvant fermer la porte, entassa une masse de bois sur le feu dont la flamme, s'élevant dans la vaste cheminée, éclaira tout l'appartement et fit paraître sur le mur opposé l'ombre des pincettes comme un géant à longues jambes. Mon oncle, grimpant alors au sommet de la demi-douzaine de matelas qui forment un lit français et qu'on avait placé dans un enfoncement, s'y enveloppa étroitement et, s'enterrant jusqu'au menton dans les couvertures, il resta à regarder le feu, à écouter le vent et à s'applaudir de la prudence qu'il avait portée à passer la nuit chez son ami le marquis. Et enfin, il s'endormit. À peine était-il à la moitié de son premier sommeil, quand il fut éveillé par l'horloge du château, dans la tour au-dessus de sa chambre, qui frappait minuit. C'était une de ces vieilles horloges qui plaisent aux fantômes. Elle avait un son lugubre, sourd, et frappait si lentement, si longuement, que mon oncle crut qu'elle n'en finirait jamais. Il compta et recompta, jusqu'à ce qu'il fût sûr d'avoir compté 13. Et alors, elle s'arrêta. Le feu était tombé, et l'éclat presque expirant du dernier fagot produisait de longues flammes bleues qui, de temps en temps, s'allongeaient en petits rayons blancs. Mon oncle restait les yeux à demi fermés, et son bonnet de nuit tirait presque jusqu'à son nez. Son imagination battait déjà la campagne et commençait à mêler la scène du moment avec le cratère du Vésuve, l'Opéra de Paris, le Colisée de Rome, le restaurant de Dolly à Londres et tout le fagot des lieux célèbres qui remplissent le cerveau d'un voyageur. En un mot, il se rendormit. Soudain, il fut éveillé par un bruit de pas qui semblait traverser lentement le corridor. Mon oncle, comme il le disait souvent lui-même, n'était pas homme à se laisser facilement effrayer. Il resta donc tranquille, pensant que ce pouvait être quelque nouvel hôte ou un domestique qui allait se coucher. Cependant, les pas s'approchaient de la porte. Elle s'ouvrit doucement. Était-ce d'elle-même ou était-elle poussée? Mon oncle ne put en juger. Une figure, toute vêtue de blanc, entra dans la salle. C'était une femme d'une taille haute et majestueuse et de l'air le plus imposant. Son costume était ancien, sa large robe traînait à terre. Et elle s'avança vers la cheminée sans regarder mon oncle, qui leva d'une main son bonnet de nuit et la considéra avec attention. Elle resta quelque temps debout près du feu qui, se ranimant par intervalles, jetait des rayons de lumière bleue et blanc qui permirent de l'examiner avec soin. Sa figure était d'une pâleur mortelle, augmentée peut-être par la lumière bleue de la flamme. Elle n'était pas sans beauté, mais cette beauté était ternie par les soucis et les chagrins. Ses regards semblaient annoncer une âme habituée au malheur, mais incapable de s'y laisser abattre. Leur expression dominante était une hauteur et une fierté insurmontables. Telle fut du moins l'idée que s'en forma mon oncle, et il se piquait d'être un habile physionomiste. La figure resta, comme je l'ai dit, quelque temps près du feu, étendant une main, puis l'autre, puis chaque pied alternativement comme pour se chauffer. Car vos fantômes, si réellement c'était un fantôme, sont sensibles au froid. Mon oncle remarqua de plus qu'elle avait des souliers à hauts talons, selon la mode ancienne, avec de larges boucles de diamants telles qu'on en portait autrefois et qui lançaient de plus vifs éclats. Enfin, la figure se tourna doucement, jeta sur l'appartement un regard qui, en s'arrêtant sur mon oncle, fit refouler son sang dans ses veines et le glaça jusqu'à la moelle des os. Elle étendit alors les bras au ciel, joignit les mains et, les serrant d'un air suppliant, sortit lentement de la chambre. Mon oncle passa quelque temps à réfléchir sur cette visite, car, comme il le remarquait en me contant l'histoire, quoique homme de courage, il était aussi homme de réflexion, et ne rejetait pas un fait parce qu'il était hors du cours des événements ordinaires. Néanmoins, étant, comme je l'ai dit, grand voyageur et accoutumé à d'étranges aventures, il étendit avec courage son bonnet de nuit sur ses yeux, tourna le dos à la porte, tira les couvertures sur ses épaules et s'endormit définitivement. Il ne pouvait dire combien de temps il avait dormi quand il fut éveillé par la voix de quelqu'un qui était près de son lit. Il se tourna et vit le vieux domestique français, avec ses longues ailes de pigeon de chaque côté d'une longue face blême, sur laquelle l'habitude semblait avoir gravé un sourire éternel. Il fit nombre de grimaces et demanda mille pardons de déranger monsieur, mais la matinée était avancée. Mon oncle, en s'habillant, rappelait vaguement dans son esprit l'image de son visiteur nocturne. Il demanda au domestique quelle dame était dans l'habitude de rôder la nuit dans cette partie du château. Le vieux serviteur leva les épaules à la hauteur de sa tête, mit une main sur son cœur, ouvrit l'autre en étendant les doigts, et fit une grimace bizarre en s'efforçant de faire un compliment. Ce n'était pas à lui de rien savoir des bonnes fortunes de monsieur. Mon oncle vit qu'il ne tirerait rien de satisfaisant de ce côté. Après le déjeuner, il se promenait avec le marquis dans les appartements modernes du château, parcourant les planchers bien cirés et le salon tendu de soie, au milieu de meubles brillants de dorures et de brocarts, jusqu'à ce qu'ils arrivassent à une longue galerie de tableaux contenant plusieurs portraits, les uns à l'huile, les autres au crayon. C'était un vaste champ pour l'éloquence du marquis qui avait tout l'orgueil d'un noble de l'Ancien Régime. Il n'y avait pas en Normandie, et peut-être en France, un grand nom qui ne fût, d'un côté ou d'un autre, allié à sa maison. Mon oncle l'écoutait, déguisant son impatience, se tenant tantôt sur une jambe, tantôt sur l'autre, tandis qu'il énumérait avec son feu et sa vivacité accoutumée les perfections de ses ancêtres, dont les portraits étaient suspendus au mur, depuis les faits d'armes de ses farouches guerriers couverts d'acier, jusqu'aux galanteries et aux intrigues de ces petits maîtres aux yeux bleus, aux figures gracieuses, avec leurs perruques poudrées, leurs manchettes de dentelle et leurs vêtements de soie bleue mouchetés, sans oublier les conquêtes des aimables bergères aux ceintures serrées, à l'étroit corsage, convoyaient, gouvernaient leurs troupeaux et leurs bergers avec des houlettes brillantes décorées de rubans flottants. Au milieu du discours de son ami, mon oncle tressaillit à l'aspect d'un portrait en pied qui lui parut la contre-épreuve de son visiteur de la nuit dernière. « Je crois, dit-il, le montrant du doigt, avoir vu l'original de ce portrait. »« Pardonnez-moi, répliqua poliment le marquis. Cela est difficile, car cette dame est morte depuis plus de 100 ans. C'était la belle duchesse de Longueville qui figura durant la minorité de Louis XIV. »« Et y a-t-il quelque chose de remarquable dans son histoire ?»« Jamais question ne fut plus malheureuse. Le petit marquis prit à l'instant l'attitude d'un homme qui va faire un long récit. Au fait, mon oncle s'était attiré toute l'histoire de la guerre civile de la Fronde, où la belle duchesse avait joué un rôle si distingué. Turenne, Coligny, Mazarin furent évoqués de leur tombeau pour enrichir sa narration. Il n'oublia ni l'affaire des barricades, ni la chevalerie des portes cochères. Mon oncle commençait à se souhaiter à 1000 lieues du marquis et de son impitoyable mémoire, quand tout à coup, les réminiscences du petit homme prirent une direction plus intéressante. Il racontait l'emprisonnement du duc de Longueville et des princes de Condé et de Conti dans le château de Vincennes, et les efforts inutiles de la duchesse pour soulever en leur faveur les forces de la Normandie. Il était arrivé à l'époque où elle fut investie par l'armée royale dans le château de Dieppe. Le courage de la duchesse, poursuivit le marquis, s'élevait avec ses revers. On s'étonnait de trouver tant de beauté et tant de grâce dans un être si longtemps aux prises avec le malheur. Elle se détermina à une tentative de désespoir. Peut-être avez-vous vu le château où elle était renfermée, un vieil édifice en ruine, élevé sur le penchant d'une colline au-dessus de la petite ville de Dieppe. Dans l'obscurité d'une nuit d'orage, elle sortit en secret par une petite poterne du fort dont l'ennemi avait négligé la garde. La poterne subsiste encore aujourd'hui. Elle donne sur un pont étroit qui traverse un fossé profond entre le château et le sommet de la colline. Elle était accompagnée de ses suivantes, d'un petit nombre de domestiques et de quelques généreux cavaliers restés fidèles à sa fortune. Son dessein était de gagner un petit port éloigné d'environ 2 lieues, où elle avait fait préparer en secret un vaisseau pour fuir en cas de pressant danger. La petite troupe fugitive fut obligée de faire la route à pied. À leur arrivée au port, le vent était violent, la marée contraire. Le vaisseau à l'ancre bien loin dans la rade, sans autre moyen d'arriver à bord qu'une barque de pêcheurs ballottée comme un coquillage sur le bord d'un rocher. La duchesse se décida à risquer le passage. Les matelots s'efforcèrent de l'en détourner. Mais les dangers qui l'attendaient à terre et la grandeur de son courage prirent le dessus. Un matelot devait la porter dans ses bras jusqu'à la chaloupe. Telle était la violence des vents et des flots qu'il chancela, perdit pied et laissa tomber dans la mer son précieux fardeau. La duchesse faillit se noyer. Mais, partie par ses propres efforts, partie par le secours des matelots, elle revint à terre. À peine eut-elle repris un peu de force qu'elle voulut renouveler l'entreprise. Cependant, la tempête était parvenue à un point de violence qui défiait tous ses efforts. Tout retard l'exposait à être reconnu et saisi. Une seule ressource restait. Elle se procure des chevaux, monte en croupe avec ses suivantes derrière les galants chevaliers qui l'accompagnent et parcourt le pays pour y chercher un asile momentané. Tandis que la duchesse, pauvre dame, errait au milieu de la tempête dans un si triste équipage, elle arriva à ce château. Son approche y causa quelque inquiétude. Car le bruit d'une troupe de cavalerie qui parcourait dans le silence de la nuit l'avenue d'un château solitaire, dans ce temps de trouble et dans un pays désolé, pouvait exciter de justes alarmes. Un grand et vigoureux chasseur, armé jusqu'aux dents, prit le devant et annonça l'arrivée de la duchesse. Toute inquiétude disparut. On sortit avec des flambeaux pour la recevoir, et jamais la lueur des torches n'éclaira une troupe plus épuisée par le mauvais temps et la fatigue. La pauvre duchesse et ses femmes, chacune assise derrière son cavalier, étaient pâles et abattues. Leurs vêtements étaient souillés de boue, tandis que les pages et les domestiques, trempés et presque endormis, semblaient près de tomber de cheval, de sommeil et de fatigue. La duchesse fut accueillie avec empressement par mon aïeul. Elle fut introduite dans la salle du château. De grands feux brillèrent de toutes parts pour animer elle et sa suite, et toute la batterie de cuisine fut mise en réquisition pour préparer aux voyageurs d'abondants rafraîchissements. Elle avait droit à notre hospitalité, continua le marquis se redressant avec un certain air de majesté, car elle était alliée à notre famille. Je vais vous dire comment. Son père, Henri de Bourbon, prince de Condé. Mais la duchesse passa-t-elle la nuit au château ? Dit assez brusquement mon oncle, qui tremblait de se voir enveloppé dans une des discussions généalogiques du marquis. Ah ! Quant à la duchesse, on la logea dans l'appartement même que vous occupiez la nuit dernière. C'était à cette époque une sorte d'appartement de réception. Sa suite fut logée dans les chambres qui donnent sur le corridor voisin, et son page favori coucha dans un cabinet peu éloigné. Le grand chasseur qui avait annoncé son arrivée marchait de long en large dans le corridor et servait de sentinelle ou de garde. C'était un homme à l'air triste et menaçant, et, quand la lumière d'une lampe placée dans le corridor éclairait ses traits fortement prononcés et ses formes vigoureuses, il semblait capable de défendre seul le château. La nuit était orageuse et terrible à peu près dans cette saison. À propos, je n'y songeais pas. La nuit dernière était l'anniversaire de sa visite. Je puis bien m'en rappeler la date précise, car c'est une nuit que notre maison ne doit pas oublier. Il y a à ce sujet une singulière tradition dans la famille. Ici, le marquis hésita. Un nuage sembla s'étendre sur ses sourcils épais. Il y a une tradition qu'un étrange événement signala cette nuit. Un étrange, mystérieux, inexplicable événement. Ici, il s'arrêta. Avait-il rapport à la duchesse? Demanda mon oncle avec vivacité. Il était plus de minuit, reprit le marquis. Tout le château. Ici, il s'arrêta encore. Mon oncle fit un mouvement d'inquiète curiosité. Pardon, dit le marquis. Une légère rougeur se répandit sur son pâle visage. Il y a des circonstances relatives à l'histoire de notre famille que je n'aime pas à raconter. C'était une époque funeste, un temps de grands crimes parmi les grands hommes. Car vous savez que le sang noble, quand il s'égare, ne coule pas tranquille comme celui de la canaille. Pauvre duchesse, mais j'ai un peu d'orgueil de famille qui... Excusez-moi, nous changerons de sujet avec votre permission. La curiosité de mon oncle était piquée. La pompe de l'introduction l'avait porté à espérer quelque chose de merveilleux dans l'histoire à laquelle elle semblait servir d'avenue. Il ne s'attendait pas à être désappointé par cet accès subit d'une aussi bizarre délicatesse. En outre, voyageant par curiosité, il croyait de son devoir de s'enquérir de tout. Néanmoins, le marquis éluda toutes ses questions. « Eh bien, dit mon oncle avec quelque vivacité, quoi que vous en pensiez, j'ai vu la duchesse la nuit dernière. » Le marquis n'a pas et le regarda avec surprise. « Elle m'a rendu visite dans ma chambre à coucher. » Le marquis tira sa tabatière avec un mouvement d'épaule et un sourire, prenant cela sans doute pour une méchante plaisanterie anglaise que la politesse lui ordonnait d'approuver. Cependant, mon oncle poursuivit et lui rapporta toutes les circonstances. Le marquis l'écouta jusqu'au bout avec une profonde attention, tenant sa tabatière fermée à la main. Quand l'histoire fut terminée, il ouvrit sa tabatière d'un air résolu, prit une longue, une sonore prise de tabac. « Bah !» dit le marquis, et il s'avança vers l'autre bout de la galerie. Ici, le narrateur s'arrêta. La compagnie attendit quelque temps qu'il reprît sa narration, mais il garda le silence. « Eh bien, dit le gentilhomme questionnaire, que dit alors votre oncle ?»« Rien, répliqua l'autre. Et que dit ensuite le marquis ?»« Rien. Et est-ce tout ?»« C'est tout, dit le narrateur remplissant un verre de vin. « Je soupçonne, dit le vieux gentilhomme au nez railleur, je soupçonne que le fantôme n'était autre que la vieille ménagère qui faisait sa ronde pour voir si tout était en ordre. » « Bah !» dit le narrateur. « Mon oncle était trop accoutumé aux aventures pour confondre un fantôme avec une ménagère. » Un murmure s'éleva autour de la table. Moitié de gaieté, moitié de désappointement. J'étais porté à croire que le vieux gentilhomme avait réellement la seconde partie de son histoire en réserve, mais il sirota son vin et n'ajouta pas un mot. Et il y avait, dans sa contenance et sur son visage, dont nous avons donné la piteuse description, une singulière expression qui me laissa douter s'il plaisantait ou s'il était sérieux. « Ma foi !» dit le gentilhomme au nez flexible, « cette histoire de votre oncle m'en rappelle une autre qu'avait coutume de conter une de mes tantes du côté de ma mère. Quoique je ne la crois pas digne de supporter la comparaison, car la bonne dame n'était pas aussi sujette aux aventures merveilleuses. Au reste, vous en jugerez. »